Bonjour chers auditeurs, Henri de Villiers au micro. Bienvenue dans cette émission consacrée comme chaque semaine à la liturgie et à la musique sacrée. Nous entamons aujourd'hui notre second épisode consacré au Laudation avec une vaste fresque musicale pendant 1000 ans de musique à peu près, un peu moins 800 ans disons, 900 ans allez, 900 ans de musique autour de cette belle séquence de la fête Dieu que nous avons chantée la semaine passée. Et qui a été composée, enfin plus exactement écrite par saint Thomas d'Aquin à la demande du pape Urbain IV. En effet, la fête Dieu avait été instituée à Liège vers 1246, suite à une vision de sainte Julienne de Montcornillon, et l'archidiacre de Liège était devenu pape sous le nom d'Urbain IV et avait voulu établir cette fête à Rome également. Surtout à la suite d'un miracle eucharistique à Bolsena, auquel le pape avait assisté en même temps que saint Thomas d'Aquin. Et donc le pape a demandé de revoir les textes de la fête qui avait été instituée à Liège pour avoir peut-être un exposé plus précis de la foi catholique, et évidemment saint Thomas a été particulièrement efficace pour affirmer la foi catholique, notamment dans la séquence de la messe Laudation. Il a copié en fait le rythme, la poésie et la musique d'une séquence précédemment écrite par Adam de Saint-Victor, chantre de Notre-Dame de Paris, et célèbre pour ses compositions de séquences. Et le dit Adam de Saint-Victor avait en fait établi sa séquence sur l'Alléluia de la fête de la croix. Alors là, c'était une séquence pour la fête de la croix, hein, Laudes Crucis Atolamus. Et ce Laudes Crucis Atolamus était lui-même la séquence de l'Alléluia Dulce Lignum. Donc en fait, il reprend les motifs mélodiques de ce plein chant initial. Alors la semaine passée, nous avions vu le Laudation en plein chant grégorien, ainsi que deux exemples in extenso de compositions dues à Brummel et à Roland de Lassus au tout début de la Renaissance. Nous allons continuer aujourd'hui, mais avec des exemples souvent plus brefs, parce que le texte est très très long, et donc les compositeurs que l'on intégralement mis en musique sont assez rares, mais beaucoup en ont pris des extraits principaux pour utiliser en guise de motet, et donc pas pour une exécution liturgique entre l'Alléluia et la séquence, mais pour pouvoir être chanté par exemple dans un salut du Saint-Sacrement ou à une communion ou à d'autres moments de l'année liturgique. Il y a aussi un point intéressant, c'est que comme toute séquence, eh bien, le Laudation voit deux chœurs qui alternent strophe à strophe et qui se répondent rythmiquement et par les rimes également, comme on avait vu la fois dernière. Et cette idée des deux chœurs va être reprise par les compositeurs du XVIe siècle à une époque où justement se développe la polyphonie polychorale, donc la polyphonie à plusieurs chœurs, ce qu'on appelait en Italie les chœurs spezzati, les chœurs brisés, c'est-à-dire qu'on plaçait dans deux tribunes, voire parfois beaucoup plus, hein, deux chœurs, où on peut aller à beaucoup plus que deux chœurs du reste, deux chœurs qui vont dialoguer, qui vont échanger, qui vont faire une partie de ping-pong vocal, souvent entre eux. Et justement, ça va être le cas des trois premiers exemples que nous allons écouter cet après-midi. Commençons par Palestrina, le maître par excellence de l'école romaine, qui nous a laissé un Laudation à double chœur, à huit voix. Donc le premier chœur est constitué d'un cantus, cantus, altus et bassus, et le deuxième chœur, altus, altus, ténor et bassus. Ce motet à double chœur de Palestrina a été publié à Venise chez Scotto en 1575 dans un livre qui contient plusieurs autres exemples d'œuvres à polychorale. Écoutons donc ce magnifique Laudation de Palestrina chanté par l'ensemble Incantu sous la direction de Riccardo Sciopa.
Thank you.
Nous venons d'écouter le très beau Laudation à deux chœurs de Palestrina. Écoutons maintenant la version qu'en laisse Victoria. Lui aussi a choisi de faire un Laudation à deux chœurs, huit voix totales réparties en premier chœur soprano alto ténor basse et deuxième chœur soprano alto ténor basse. Donc on a un effectif vocal qui est plus régulier ici que chez Palestrina et qui marque bien aussi un peu le classicisme, si je puis m'exprimer, de Victoria dans ses choix de répartition vocale. Le début est assez contrapuntique, et puis le dialogue va être plus vertical entre les deux chœurs qui vont se répondre, et cette verticalité annonce déjà un peu la naissance d'un nouveau style post-tridentin hein, qui va devenir notre musique baroque. Et va aussi développer cette polychoralité de la fin de la Renaissance. Donc, écoutons ce magnifique Laudation de Victoria, interprété par l'ensemble Plus Ultra, sous la direction de Michael Noon, qui est un des spécialistes par excellence de l'édition musicale des œuvres de Victoria. Après Victoria, nous allons écouter un troisième exemple de Laudation à double chœur, dû au génie de Marc-Antoine Ingegneri, Marc-Antonio Ingegneri, maître de chapelle de la cathédrale de Crémone, en Italie, un compositeur un peu oublié malheureusement, alors que ses compositions sont toujours d'une grande valeur. Alors là, il a distribué ses chœurs différemment. Contrairement à Victoria ou à Palestrina, le premier chœur va être juste à trois voix, cantus altus ténor, et le second chœur un peu plus régulier, cantus altus ténor bassus. Ce qui suggère en fait dans l'exécution une alternance entre un petit chœur de soliste et un grand chœur plus important. Donc là encore, c'est une disposition qui va trouver son plein épanouissement dans la période baroque qui va suivre. On va écouter donc ce motet de Marc-Antoine Ingenieri, ce Laudationnat de chœur, publié en 1589 à Venise par le chœur de Girton College à Cambridge sous la direction de Garrett Wilson. Après le Laudation de Marc-Antonio Ingenieri, troisième exemple fastueux à double chœur de ce texte de saint Thomas d'Aquin mis en musique que nous avons cet après-midi, eh bien, nous allons écouter une œuvre beaucoup plus intimiste de son disciple bien connu qui est Claudio Monteverdi. Donc Monteverdi, disciple d'Ingenieri, a laissé des sacrés canti oculi, donc des petits cantiques sacrés, tous à trois voix égales, pour manifestement maîtrise d'enfant, qui ont été publiés en 1582 chez Gardano à Venise, en plusieurs livres. Et parmi ceux-ci, un petit Laudation à trois voix égales, que nous écoutons chanté par le chœur d'enfants Jeunesse musicale. Ce sont des Hongrois. C'est un enregistrement de la célèbre maison de disques hongroise Ungaroton, qui date de 1979.
Thank you.
nous avons écouté précédemment le Laudation de Monteverdi, lui-même disciple d'ingénierie. On va écouter celui d'Alessandro Grandi, qui à la même époque est maître de chapelle à Ferrare, mais qui se voit engagé en 1619 dans les chœurs de la basilique Saint-Marc de Venise, avant d'en devenir le vice-maître de chapelle et de seconder Monteverdi. Mais ce jeune vizir qui manifestement briguait la place du calife, reçoit beaucoup de succès avec ses compositions. Grandi va susciter une rivalité entre lui et Monteverdi, son maître de chapelle. Donc il y a tout un... une confrontation un peu historique à cette époque entre les deux compositeurs, qui finalement va se traduire par l'abandon de Grandi, qui va quitter Venise pour aller diriger les chœurs de la basilique Sainte-Marie-Majeure de Bergame, où du reste il meurt de la peste avec sa famille. Écoutons donc ce motet d'Alessandro Grandi.
Salutaris hostia, salutaris hostia, quae celi pandis hostium, quae celi Hostia, darabur faux robur fer
appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Après avoir écouté la musique d'Alessandro Grandi, voici un laudation dû à un compositeur peu connu, Giovanni Maria Sabino, qui est napolitain et qui va être le fondateur de l'école de musique napolitaine qui va s'épanouir plus tard au XVIIIe siècle et devenir célèbre dans tout l'Occident. Sabino va importer à Naples le style de Venise que nous venons d'écouter avec Grandi et Monteverdi, et il va être le premier employé à Naples des violons, une basse continue, des passages virtuoses, l'utilisation abondante des voix solistes, ce qui va être des caractéristiques de l'école napolitaine par la suite. Voici son Laudation, interprété justement par l'ensemble baroque Giovanni Maria Sabino, sous la direction de Paolo Valerio.
Thank you.
Après l'Italie, passons en Espagne avec la composition d'un prêtre organiste de la cathédrale de Ségovie, Francisco Correa de Roxo de Acevedo, qui meurt en 1654 et qui laisse un sublime Laudation à la fois pour chœur et pour orgue, que nous écoutons ici interprété par l'ensemble Capella Sancti Michaelis, sous la direction d'Eric Van Nevel, Bernard Faucroul étant au clavier.
Thank you.
Après l'Italie et l'Espagne, nous passons maintenant en Allemagne du Nord, en Allemagne luthérienne, où curieusement, eh bien, Dietrich Buxtehude va composer un Laudation Salvatorem, ce qui peut surprendre puisque c'est une pièce éminemment en faveur de la doctrine catholique de la transsubstantiation. Alors, on peut s'en étonner, mais les luthériens avaient gardé quand même le latin, parfois même dans le culte, et puis étaient moins retors que les calvinistes sur la doctrine de la présence réelle du Christ, même s'ils rejetaient la formulation précise du terme de transsubstantiation. Et puis, toujours est-il que Buxtehude faisait des auditions de musique en dehors des offices, les Abendmusiken, des genres de concerts spirituels non liturgiques, et probablement que cette œuvre a pu être donnée dans ce cadre. Voici donc son magnifique Laudation Salvatorem, interprété par l'orchestre et le chœur de baroque d'Amsterdam sous la direction de Ton Koopman.
Laudamus te, Jesus.
Nous passons en France maintenant pour terminer cette émission avec Étienne Moulinier, un compositeur du début du XVIIe siècle, un peu oublié, qui laisse un beau Laudation interprété ici par l'ensemble Correspondance sous la direction de Sébastien Dossé.
Laudation salvatore, laudatus et pastore. Et cantus is et cantus is
quantum potest tantum omnium quidam
Antoine Charpentier a laissé deux Laudation, alors une composition H14 prose du Saint-Sacrement complète, donc là il y a tous les versets du Laudation, pour trois voix d'hommes, deux dessus instrumentaux et basse continue qui doit dater des années 1678, malheureusement toujours pas enregistré, hélas, et puis une élévation pour voix seule, pour un ténor, pour une taille, Laudation H268 que nous allons écouter maintenant, donc pour taille et basse continue, chantée par Jean-François Novelli et Fabien Armengo, l'ensemble Sébastien de Brossard nous l'interprète.
Laudation salvatore, laudatissem et pastore, in innis et cantissis, in innis et cantissis. Quantum potest ad omnore, quia major omni laude, nec laudare sufficis. Quantum potest ad omnore, quia major omni laude, nec laudare. Specialis anis vivus et vitalis onie proponitur, anis vivus et vitalis onie proponitur, quem in sacre mossa sede firme fratrum meo tene, da domnona pigitur. No, no, no. comme non abigitur Laudatio salvatorem Laudatissem et pastorem In hymnis et cantisis In hymnis et cantisis Quantum potest ad ompode Quia major omni lore Nec lodaris ificis Quantum potest ad ompode Quia major omni lore Nec lodare Nec
François Couperin a laissé lui aussi un délicieux Laudation, petit motet à deux voix et basse continue, avec les grandes sopranos Gilles Feldman et Isabelle Poulnard. C'est un concert qu'elle donnait au château de Versailles avec David Moroney à l'orgue et Philippe Pierlot à la viole de gambe. Arrivons au terme de ce second volet consacré au Laudation. Il en reste deux. Restez donc à l'écoute de Radio Courtoisie et donnons-nous rendez-vous donc dimanche prochain à la même heure pour la suite de cette vaste fresque musicale.
Vous venez d'entendre Liturgie et musique sacrée, une émission proposée par Henri de Villiers, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 14 juin 2026 de 15h à 16h et réalisée par Benoît.